Vous écoutez
RMC.
7h59 et la canicule partout, Géraldine.
Et ça continue avec 54 départements en vigilance rouge pour cette canicule, hein, vraiment de l'Atlantique jusqu'à la Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne. 35 autres départements sont en vigilance orange et les 7 derniers sont en vigilance jaune. Donc oui, ça concerne tout le monde. Avec une nuit qui a été étouffante, près de 27 degrés au plus frais du côté d'Angoulême. 26 par exemple à Poitiers. Cet après-midi, on devrait atteindre les 43 degrés à Cognac. 42 pour Bordeaux, Nantes, 40 à Clermont-Ferrand, Toulouse, à Rochelle, 39 à Paris, 38 à Lyon, Grenoble, Nancy, 37 à Marseille ou à Brest, 33 degrés à Lille, avec évidemment beaucoup de soleil, des orages aussi qui pourront éclater parfois assez fort sur le sud des Alpes cet après-midi, et ça va se poursuivre puisque jusqu'à jeudi on n'aura quasiment aucun changement de température.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story, merci d'être avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz, de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le réseau ferroviaire surchauffe, vous allez voir, avec les très fortes chaleurs, des heures de retard sur de nombreux trains jusque dans la nuit, des suppressions jusque dans le métro à Paris pour aujourd'hui. On va revenir sur les suites de l'affaire Liana au lendemain de la remise du rapport sur les défaillances dans cette affaire. 134 personnes, vous verrez, ont été placées en détention provisoire ces derniers jours pour d'autres affaires qui ont été réexaminées. Et puis on va prendre des nouvelles des Bleus de retour à Boston ce matin à la Coupe du Monde après leur victoire 3-0 cette nuit contre l'Irak dans un match interminable qui a été perturbé par les orages.
Ça craque dans les transports à cause de la chaleur.
Au lendemain, oui, d'une journée marquée par des pannes pour des TGV qui avaient plusieurs heures de retard et qui sont arrivés jusque dans la nuit à Paris, que ce soit à Gare de Lyon ou Gare Montparnasse. Des retards qui continuent d'ailleurs pour les premiers TGV du matin vers le sud-ouest et encore donc des transports supprimés dans toute la région parisienne. RER, train de banlieue et désormais donc 4 lignes de métro touchées. C'est la nouveauté du jour. Caroline Renaud, vous êtes en direct pour RMC ce matin de la Gare du Nord où passent toutes ces lignes avec des usagers donc qui s'accommodent.
Oui, comme ici dans le RERD, trafic ralenti et pas de climatisation. Et on le sent dès qu'on monte à bord. Hein. L'air est lourd, étouffant, l'impression d'avoir même quelques degrés de plus qu'à l'extérieur. Alors certains passagers s'éventent avec ce qu'ils peuvent. D'autres ont leur bouteille d'eau, des conditions pénibles et surtout inadaptées, selon Nadège.
On suffoque en fait, il fait chaud, les trains sont bondés, sans compter ceux qui sont supprimés, qui font encore retarder le trajet. Il y a plus de monde, pas de climatisation. Quand on compare le prix du ticket, 90 euros, presque 100 euros le mois, pour avoir de telles conditions dans les trains, c'est un enfer en fait pour les usagers.
De son côté, la région explique devoir supprimer des trains pour protéger les installations de la chaleur. Ali, on a fait les frais ce matin, 30 minutes de retard.
J'ai eu un train supprimé tout à l'heure. C'est-à-dire là, j'arrive en retard au travail. Je prends la voiture, c'est mieux. Il y a la clim direct dedans. Là, j'ai pris ma demi-journée au cas où. Ouais, je m'adapte parce qu'il fait trop chaud.
Et s'adapter, il faudra encore le faire quelques jours. La présidente de région, Valérie Pécresse, conseille aux Franciliens d'éviter de se déplacer autant que possible.
Caroline Renaud en direct dans les transports ce matin à Paris, où on relevait une température de 24 degrés à 5h du matin. C'était même 28 à Poitiers avec un ressenti 31, 26 au Havre avec un ressenti encore plus élevé de 33 degrés. Là, ce que je vous donne, c'est des températures à 5h du matin au lendemain d'une journée qui a été la troisième plus chaude que l'on ait jamais mesurée. Et alors, Géraldine de Maury, on vous écoute attentivement ce matin. On ne sait toujours pas quand ça va se terminer.
Mais non, ce qu'on sait, c'est qu'entre aujourd'hui et jeudi, on va vraiment avoir les trois journées les plus chaudes de l'épisode. Probablement même les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France. Alors, on a quand même un petit espoir pour la fin de la semaine avec un rafraîchissement qui devrait arriver par le nord-ouest. Attention, hein, je suis pas du tout en train de vous parler d'une fin de canicule, mais d'une canicule moins intense. Samedi, par exemple, on devrait aller de 26 degrés sur la pointe bretonne à 38 degrés encore dans l'est, en passant par 30, 32 degrés pour Paris. La semaine prochaine, en moyenne, on devrait être à 30 degrés sur la moitié nord les après-midi, mais avec des minimales encore en moyenne de 20 degrés, donc toujours des nuits qui seront difficiles. Pour la moitié sud, on sera toujours à 34 degrés de moyenne en journée, donc ce qui signifie qu'on ne sortirait toujours pas de la vague de chaleur commencée le mercredi 17 juin.
Et encore une journée sans école pour énormément d'enfants. Là, ce mardi, il y en avait 1350 qui étaient fermés totalement hier et plus de 4000 avec des aménagements. La France qui n'est pas assez préparée à la canicule, auquel il faut ajouter le vieillissement de la population. C'est l'alerte ce matin d'une association spécialisée dans les conséquences du réchauffement climatique. Au mieux, on s'en accommode, comme ici à Bordeaux, où des personnes âgées peuvent aller trouver de la fraîcheur dans des maisons de quartier climatisées. Des échoppes, comme on dit à Bordeaux, où s'est rendu Marion Gauthier pour RMC.
Fin du repas, le café est servi.
Vous savez que la mairie nous a donné l'autorisation de vous laisser ici jusqu'à 18h30.
Ah, ben oui. Plus de temps au frais, sourire de Christine.
C'est meilleur ici, hein. Parce que chez moi, là, il fait 28 et quelques. Hein.
Ça fait un bien.
Souffle Bernadette.
Physiquement, déjà, et ça rassure. On a peur de la chaleur.
Quand il fait très chaud, on ferme tout. On vit quasiment dans le noir, on se sent isolé.
D'avoir un lieu comme ça, climatisé, mais c'est indispensable.
L'énergique Evelyne a tenté de parler de ce refuge à des voisins.
On a distribué des flyers, vous savez.
Difficile de convaincre tout le monde, acquiesce Laurence Navaille, l'adjointe au maire.
La difficulté, c'est d'appeler tout le monde, ou d'aller voir tout le monde, ou d'envoyer un SMS à tout le monde. Faut-il encore que la personne reçoive le SMS et le lise?
Et pour ceux à qui le trajet fait peur, des bénévoles de la métropole jouent les taxis jusqu'à cette autre salle climatisée, projection d'un concert.
J'évite de marcher dehors ou de faire du vélo dehors quand il y a un tel ensoleillement. Je suis à disposition de mon aimable chauffeur.
Départ prévu après au moins 2 heures au frais. Et l'opéra terminé.
Une enquête est ouverte à Carpentras, dans le Vaucluse, où 2 enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts dans une voiture. C'était hier après-midi, drame épouvantable, sans doute en échappant à la vigilance de leur mère qui rentrait des courses. Alors, en plus de l'alerte pour la chaleur, les très fortes chaleurs, il y a les risques d'incendie à un niveau élevé désormais dans 28 départements. Ça n'arrête pas d'augmenter. 11 départs de feu rien qu'il y a dans le département d'Allier, 3 dans l'Aude. Ce département meurtri l'année dernière, chacun s'en souvient, avec le drame des Corbières. Il y aura un avant et un après. Ça, c'est ce que promet le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, au lendemain de la remise du rapport sur les défaillances dans l'affaire Liana, il y a maintenant plus de 3 semaines. Ce rapport pointe du doigt des défaillances individuelles, des sanctions d'ailleurs sont prises contre une magistrate et 2 gendarmes, mais aussi structurelles, à savoir un manque de moyens, contrairement à ce que disait le gouvernement. Romain Houg pour RMC, c'est la première déflagration en quelque sorte, en attendant la fin du réexamen des 70 000 plaintes pour violences sexuelles.
Oui, le gouvernement tente de montrer que les premiers enseignements ont été tirés après l'affaire Liana, et en particulier que le réexamen en urgence de ces 70 000 dossiers de plaintes touchant des enfants porte ses fruits. C'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui en a fait un premier bilan hier soir au JT de TF1. Et le voici, depuis lundi dernier, 1243 gardes à vue dans des affaires qui concernent directement des atteintes sur mineurs. 134 personnes ont été placées en détention provisoire. Ce sont des individus en attente de procès, mais la justice estime qu'il y a les concernant un risque de récidive, de fuite ou de pression sur d'éventuels témoins. Gérald Darmanin, qui refuse toujours de démissionner malgré les appels de plusieurs de ses opposants politiques, il reconnaît toutefois devoir se remettre en question, car les dysfonctionnements constatés jusque-là reposent peut-être, je le cite, sur une mauvaise organisation.
Romain Houg pour RMC à 8h07. Je vous propose de prendre des nouvelles des Bleus à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors pour ceux qui tentaient de dormir cette nuit, en tout cas avec la chaleur, sachez que les Bleus se sont qualifiés pour les 16e de finale en battant l'Irak 3-0 cette nuit à Philadelphie, dans un match qui a été perturbé, très perturbé même par les orages. Le match a duré bien plus longtemps que prévu, avec une mi-temps longue de 2 heures. Jean-Louis Tour, on a vécu ça en votre compagnie sur RMC, et vous nous dites que là, ça y est, les Bleus sont enfin de retour à leur QG de Boston.
Oui, il y a 1h30, ils ont atterri à Boston sans être gênés cette fois par les orages dans leur vol. Ils vont pouvoir se reposer en sachant qu'on a décalé d'une heure l'entraînement qui était prévu à 21h30 heure française. Ce sera 22h30 pour leur laisser une heure de rab pour se remettre donc de cette soirée à rallonge et préparer la Norvège vendredi à 21h avec l'objectif de la première place. Un nul ou une victoire l'assurerait à la France. C'est important à double titre. Au niveau logistique, tout d'abord, ça permettrait de rejouer en 16e, 8e et quart de finale dans les 3 mêmes villes qu'au premier tour, New York, Philadelphie et Boston, là où tout le monde a ses marques. Et sportivement, une première place, ça offrirait un 3e de groupe et donc un 16e abordable avant de peut-être affronter l'Allemagne en 8e. Ce match de la Norvège pourrait aussi confirmer la montée en puissance des Bleus contre un adversaire à 2 victoires, tester aussi la défense contre Erling Haaland, l'un des meilleurs attaquants du monde, et continuer pour Kylian Mbappé son match à distance avec Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Les deux ont inscrit un doublé hier. Messi compte désormais 18 buts, seul en tête. Et Mbappé en est à 16.
C'était la soirée et la nuit des doublés, puisque Haaland également a marqué un doublé avec la Norvège qui a battu le Sénégal 3-2. Un petit peu plus tôt ce matin, c'est l'Algérie qui a battu la Jordanie 2-1, qui reste d'ailleurs dans la course à la qualification. Et ce soir, on va revoir le Portugal de Cristiano Ronaldo à 19h contre l'Ouzbékistan.
C'était le journal de Quentin Vinay, c'est l'heure de l'économie avec Emmanuel Le Chypre.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Emmanuel, est-ce que la canicule menace la robustesse de notre réseau électrique? Est-ce que ça va tenir?
Alors, il y a un risque immédiat, nous dit Enedis, le gestionnaire de la distribution d'électricité. C'est des pannes, voire des coupures liées à la chaleur du sol, chaleur du sol qui fragilise les câbles les plus anciens. Les câbles les plus anciens, c'est 15 000 km sur les 350 000 km de réseau existant. Ça concerne plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux. Et d'ailleurs, on a déjà vu quelques coupures spectaculaires dans ces grandes villes. Après, il y a une inquiétude, mais qui est moins immédiate. Mais quand même, quand on regarde les tendances, ça inquiète un peu. C'est un, il va y avoir une augmentation de la consommation à cause de la canicule. Il faut savoir qu'une journée de canicule par rapport à une journée d'été normale, ça nécessite 3 à 5 réacteurs nucléaires de plus. Or, ces réacteurs nucléaires, à cause de la température élevée, ils risquent d'être amenés à réduire leur production, voire à l'arrêter parce que vous savez qu'un réacteur nucléaire s'est refroidi par la mer ou par les rivières et que on ne peut pas aller trop loin dans le réchauffement des rivières bien entendu. Et puis alors, figurez-vous aussi que la canicule, ça réduit la production d'électricité renouvelable parce qu'évidemment, il y a moins d'eau dans les barrages. Et puis alors surtout, ce qui peut être contre-intuitif, c'est qu'au-delà de 35 degrés, le rendement des panneaux photovoltaïques baisse.
Moi je m'étais dit plus il fait chaud au moins.
Le rendement idéal des panneaux photovoltaïques, c'est autour de 25 degrés. Voilà, au-delà, ça baisse un peu. Donc voilà, on risque d'avoir ce déséquilibre entre production et consommation si jamais la canicule devait durer trop longtemps.
Au final, cette canicule, elle va nous coûter combien?
Alors, une journée entière de climatiseur mobile en fonctionnement, ça coûte entre 2 et 5 euros. Ça peut représenter jusqu'à 210 euros de surcoût sur la facture d'électricité annuelle, nous dit Selectra. Si vous avez un logement mal isolé, vous utilisez un appareil mobile, ça peut alourdir votre facture mensuelle de près de 90 euros, sachant que la hausse du tarif de l'électricité début août ajoutera déjà 7 à 26 euros à la facture annuelle, nous dit le site Radin Malin.
Radin Malin,
oui, c'est un site où vous pouvez trouver.
C'est assez explicite,
tout
je trouve.
Tout un tas d'infos.
Ça dit bien ce que ça
fait. Et l'arme la plus efficace contre la canicule, à la fois à l'achat et à l'usage, c'est de loin le ventilateur. Puisque un ventilateur, ça ne vous coûte que 8 euros par an, selon l'ADEME, en termes de surcoût d'électricité.
Donc, les chiffres du jour, comme chaque jour, Emmanuel, est-ce que ça continue à baisser?
Mais oui, ça continue à baisser. Le gazole, on est à 1,91 € le litre. Désormais, on est à 7 centimes de baisse en une semaine. Même chose pour le sans-plomb 95, 5 centimes de baisse en une semaine à 1,90. Bon, pour tous ces carburants, on est quand même encore 20 centimes au-dessus des niveaux d'avant la guerre en Irak. Le pétrole, 77 $ le baril, ça baisse. J'ai dit quoi?
Vous avez dit Irak, mais l'Irak c'était Fatou Bleu cette nuit.
Je mélange un peu. 77 $ le baril, c'est le plus bas depuis le début mars. Et le gaz, on est à 41 € le mégawatt-heure. C'est très simple, hein. Le gaz, on est à 40, on était à 30 avant le conflit, on est monté jusqu'à 50.
On est à peu près à mi-chemin, quoi. À mi-chemin. Merci Emmanuel Le Chypre, 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant. Il y a Arnaud Demange qui arrive avec ses blagues. À 8h30, mon invité, ce sera le patron des patrons, Patrick Martin. Alors évidemment, cette question, est-ce qu'il faut un congé climatique comme le proposent les écologistes? Quel impact de la canicule sur l'économie? J'interroge le patron des patrons qui va nous parler aussi salaire et pouvoir d'achat. Il a la solution, voilà ce qu'il dit en tout cas, pour réussir enfin à rapprocher le brut du net. Il nous le dit donc à 8h30. Et puis juste après, il y aura le choix de la rédaction. Les loyers impayés explosent. Comment mieux aider les locataires en difficulté, reportage en direct à 8h50. Et puis toutes les infos après la qualification des Bleus pour les 16e de finale et la Coupe du Monde. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Exactement. 8h15, Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline. Bonjour Élise.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Victor.
Bonjour.
Vous avez bien dormi?
Non.
Vous avez regardé la France face à l'Irak?
Oui.
Parce que le match a commencé à 23h, ça s'est terminé à 3h du mat. Moi, je me suis endormi même pendant la Marseillaise. J'étais là, Marchand, Marchand.
jusqu'à la chambre pour faire un roupillon. Rompichon.
J'aime beaucoup ce rompichon.
Et après, j'ai croisé Jérôme Roten là, dans les couloirs, ouais. Parce qu'il a enchaîné avec Norvège-Sénégal. Il vient de finir Jordanie-Algérie, c'est un zombie. One, two, three. Vivement que je retrouve mon lit.
Voilà.
Le match a été interrompu pendant 2 heures à cause des orages. Ça va un peu loin, là, les pauses fraîcheurs.
Pour ouais, oui.
Ouais. Sur M6, ils n'avaient même pas assez de pubs. Ils ont été obligés de déstocker toutes les années 80. On a retrouvé Germaine de Lustucru, Gros Quick, Monsieur Malabar. Il y a Malabar. Il y avait Johnny qui chantait. Richard Berry a mangé des sveltesses. Il y avait des vieilles pubs pour des radios. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Retrouvez-moi à partir de septembre sur Radio Monte Carlo pour un grand entretien politique. Et il y avait même la pub où il y a une vieille qui se jette sur une table.
J'adorais Swift, ou je sais plus là.
Mais pas ça tous les jours.
Oh là, j'adorais.
Marie-Pierre Cazet, Ise, un truc comme ça. Je vois que Élise et Victor, ils sont.
Ils sont largués. Moi, j'ai beaucoup aimé cette pub.
Jusqu'à Johnny, ça allait.
Mais la télévision était en noir et blanc à l'époque.
Vous êtes insolente.
Donc les Bleus sont qualifiés pour les 16e de finale. Le prochain match contre la Norvège, il comptera à peine en fait. On pourrait même faire jouer Marcus Thuram en attaque pour rigoler, c'est pour le fun. Allez. Hier, Deschamps l'a fait rentrer hein, pour une minute en lui disant « Allez, ça te fera un souvenir, c'est sympa ».
Bon bah en France, c'est la canicule. Hein.
C'est ma journée de Johnny.
Ouais, yeah
ouais, c'est l'enfer. Alors plus de 2000 écoles sont fermées, mais il y en a encore plein qui sont ouvertes. J'écoutais tout à l'heure le Morning avec Élise Dangean et Victor Pourchet, qui en parlaient d'ailleurs. Et vous êtes bien dans le Morning RMC. Et aujourd'hui, allez-vous mettre vos enfants à l'école, Victor ? Bonjour Élise. Et oui, avec la canicule, les enfants cuisent. Alors, demandez bien à la maîtresse la cuisson de votre enfant. Le saignant, à point ou bien cuit. En tout cas, c'est bien. Si les enfants ne sortent pas de chez eux, il n'y aura pas de nouveau scandale dans le périscolaire parisien.
Voilà, oui, pratique, la canicule,
le meilleur allié des bambins. Et puis, le gouvernement continue à donner des conseils, Victor. Et oui, car il fait extrêmement chaud. Alors, pour avoir moins chaud, allez dans un endroit où qu'il fait moins chaud.
Voilà.
Et ça, c'est si moi, vous avez soif, buvez pour avoir moins soif. Merci Victor. Il n'y a pas de quoi. La maire de Paris a annoncé un achat massif.
Lui, hein, c'est le maire maintenant.
Ah oui, le maire. Le, en non, plus, je l'ai marqué
changé,
le maire.
Il s'appelle Emmanuel.
Il s'appelle Emmanuel Grégoire. Mmh. Il a annoncé un achat massif de climatiseurs pour les écoles. Il y en aura un par école pour rafraîchir une pièce. Mmh. Alors, du coup, il y aura des rotations, que chaque classe puisse y aller à tour de rôle. Mmh. Une sorte de pause fraîcheur, vous voyez, comme à la Coupe du Monde.
Et sorti de la classe de CM2, rentré de la classe de maternelle.
De toute façon, je trouve ça pas con, moi, ces fermetures d'école. C'est bien, comme ça, les enfants, ils souffriront pas de la chaleur en classe, ils souffriront de la chaleur à la maison.
Voilà.
C'est quand même mieux. Pauvres enfants, hein, quand même. Vous voyez, on a beaucoup critiqué Véronique Courgeot.
Oh non.
T'es peut-être juste en avance sur nous tous.
Le résistant Marc Bloch entrera au Panthéon.
Ouais, au début, j'ai mal lu, c'est Marc Bloch. Moi, j'avais noté Black Bloch. Je me suis dit, ah ouais, ils rentrent dans le Panthéon aussi. Ils étaient déjà rentrés dans l'Arc de Triomphe pendant les Gilets jaunes. Ils sont partout.
C'est dingue.
Dites donc, autant nous, les vivants, on galère depuis que Macron est président, autant pour les morts, c'est grand luxe, là.
Oui.
C'est vraiment à tous les étages, hein, de la panthéonisation en veux-tu, en voilà. T'es amené en voiture, en caveau climatisé, personne peut te canaliser.
Oh, et pas mal.
C'était gratos.
Ouais.
Et il va faire très chaud cet après-midi. Alors, sous 40 degrés, c'est pas une panthéonisation, hein. C'est une crémation spontanée. Oh. Français, c'est avec émotion que nous sommes réunis. C'est moi ou ça sent le plastique brûlé ? Non, ça sent le brûlé. Rachida, viens te mettre à l'ombre. Tu fonds là. On dirait Patrick Juvet.
Mais monsieur le président, je ne suis pas Rachida. C'est moi. C'est Jack Lang.
Donc Macron panthéonise à tour de bras et il reste 11 mois de présidence. Je ne sais pas qui il va mettre dedans à la fin. Il ne va plus rester plus grand monde à mettre au panthéon. Il faut vraiment qu'il fasse attention à ne pas faire rentrer n'importe qui, quoi.
Entre ici, Patrick Bruel.
Oh,
terrible. Mais je suis pas mort. Toi, non, mais ta carrière, elle l'est. Bon, il y a des gonzesses à l'intérieur. Simone, j'arrive. Dites à Marie Curie que je suis plus chaud qu'un atome en fusion. C'est fou, il peut pas s'en empêcher. Hein. Allez, bonne panthéonisation. À demain.
Merci beaucoup, Arnaud.
On a bien rigolé.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie.
Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h21, dans un instant le face-à-face, mais d'abord vos réactions à la chaleur, Victor.
Et on a beaucoup de gens qui nous envoient leur relevé de température, vous pouvez le faire sur le WhatsApp au 06 12 424 424, et effectivement le thermomètre grimpe. On a d'abord Jérôme qui nous fait un petit retour sur hier à Nantes. Écoutez bien, il était 16h30, il a regardé la température, il faisait 47 degrés, qui dit mieux, nous dit Jérôme. Et bien peut-être Kevin qui ce matin était à Alban dans le Tarn, 4h du matin déjà, 25 degrés, et on a Léo qui essaye de trouver des solutions comme il le peut, notamment en adaptant son quotidien. Comment se rendre au travail? J'essaierai de ne pas être dans les transports, mais je pense que ça va être assez compliqué, et j'espère surtout que je tomberai sur des trains climatisés.
Voilà pour vos messages. Portez-vous bien, restez au frais, écoutez RMC et regardez BFM TV, puisque dans un instant, je serai sur RMC et BFM avec mon invité pour le face-à-face. C'est le patron des patrons, Patrick Martin, président du MEDEF. Évidemment, je lui poserai la question de la canicule et du coût de la canicule, aussi la responsabilité des patrons pour la sécurité de leurs employés. Mais plus globalement, Patrick Martin, eh bien, il a présenté un document dans lequel il considère que la France, eh bien, tout simplement, elle a décroché. La France est déclassée, et il a la solution, notamment à un travail qui paierait mieux, rapprocher le brut du net. Il nous explique comment ça se passe dans un instant. On parle salaire sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Martin.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du MEDEF. La France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Voilà le constat quasiment sans appel que vous faites de notre France. Et vous avez des solutions, vous promettez, et c'est presque une campagne électorale, que vous avez les moyens de rapprocher le net du brut, de payer mieux, que le travail paye mieux. On va y venir dans un instant, mais d'abord, évidemment, la situation dans laquelle est la France aujourd'hui, journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Les entreprises, est-ce qu'elles tournent au ralenti? Quel est l'impact sur l'économie?
Il y a quelques secteurs qui, au contraire, sont surchauffés, si j'ose le terme. Évidemment, tout ce qui tourne autour des boissons, des glaces, etc. Mais enfin, c'est très minoritaire. Oui, la France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise, autant que possible, mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés. Immanquablement, c'est une désorganisation du travail et, au cas par cas, moins de travail.
Ça aura des conséquences? Parce que quand vous dites effectivement qu'il faut protéger ses salariés, les chefs d'entreprise ont la responsabilité des conditions de travail de leurs employés, et donc en ce moment, parfois d'adapter les horaires, voire même de dire aujourd'hui vous n'avez pas bossé, quoi.
Absolument. Enfin, quand par exemple le télétravail est possible, mais ça suppose que les salariés en télétravail et eux-mêmes une climatisation, en tout cas.
Et qu'ils soient mieux chez eux qu'au boulot. Hein.
Et puis il y a le problème des transports en commun, enfin beaucoup de choses. L'année dernière, l'INSEE, on a eu quelques pics de chaleur l'année dernière, l'INSEE n'avait pas su mesurer si ça avait un impact direct sur l'activité, mais par exemple les assureurs ont chiffré que dans les 5 prochaines années, les dérèglements climatiques pourraient coûter jusqu'à 450 milliards d'euros à la France. Donc il faut s'y préparer et il faut se protéger.
Qu'est-ce que vous pensez du congé climatique?
J'en pense pas de bien, parce que c'est à peu près l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ça n'exclut pas qu'on prenne des mesures instantanées de protection contre la chaleur, le cas échéant contre le froid. Enfin, on va devoir faire face à un mur d'investissement précisément pour se protéger de ces dérèglements climatiques et puis pour décarboner notre économie. Ben, si on travaille moins, on produit moins. Or, le problème de fond de la France, c'est qu'on ne produit pas assez. Donc un congé climatique, ça va complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire.
Donc dans les faits, vous dites, au cas par cas, les patrons s'adaptent et disent, aujourd'hui on ne va pas bosser, on fait attention, on adapte les horaires. Mais l'idée d'avoir vraiment 5 jours de congé climatique qui sont officiellement rajoutés dans le Code du Travail, vous êtes contre?
Totalement contre. Totalement contre, à nouveau, parce que ça nous priverait d'une capacité d'investissement si nécessaire pour prévenir les conséquences de ce dérèglement climatique, et parce que d'une manière générale, mais c'est une philosophie, je dirais, de qui promeut ce congé climatique, la décroissance n'est certainement pas la solution.
Ça vient de Marine Tondelier, parti des Verts. Pour vous, c'est pas du tout la bonne logique.
C'est chronique. Si on les écoute, il faut toujours moins travailler. Moi, je constate que l'aspiration majoritaire, largement majoritaire et chronique de nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat. Il faudra qu'on m'explique comment on peut gagner plus en travaillant moins.
Patrick Martin, justement, vous le dites, la France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Pour vous, est-ce que c'est fichu ou est-ce qu'on a les moyens quand même de sortir de ce marasme ?
Ah, c'est pas du tout fichu. On a produit hier un document.
Vous êtes venu avec un document, ça s'appelle Carte sur table.
Qui dresse un diagnostic d'un certain nombre de chapitres, je dirais, mais effectivement, du décrochage que l'Europe a par rapport au reste du monde, la Chine et les États-Unis en particulier, sur les plans technologiques, financiers, industriels, et puis la France à l'intérieur même de l'Europe. Est-ce que ça aboutit à une résignation ? Absolument pas. Nous, on est convaincus que la France d'abord a des talents incroyables, qu'elle ne sait pas à ce jour les mobiliser, mais qu'on doit le faire, et donc on fait en regard de ces diagnostics un peu inquiétants des propositions. Je cite juste un chiffre. Dans les années 60, il fallait 16 ans à un Français pour doubler son pouvoir d'achat. Dorénavant, il faut 106 ans. Alors, il ne faut pas s'étonner que les gens n'aient pas le moral, qu'ils aient des problèmes de pouvoir d'achat. Nous, on veut réunir les conditions, elles existent, pour redonner du pouvoir d'achat par l'emploi, par le travail, de sorte que tout le monde ait la patate.
Pour que le travail paye, vous dites que vous avez un grand plan pour les salaires, ça marcherait comment ?
Alors, on a deux sujets, le niveau de la protection sociale et le financement de la protection sociale. Le financement de la protection sociale, c'est un cas unique au monde, repose beaucoup sur les entreprises et sur les salariés. Donc on a fait effectivement des propositions qui permettraient d'améliorer les salaires nets dans les entreprises, d'alléger les charges pour les entreprises pour qu'elles gagnent en productivité, en compétitivité, et puis qu'on génère de la croissance et de l'emploi. Je suis probablement déjà trop long, mais le plan qu'on propose générerait 260 000 emplois.
Je veux comprendre comment ça marche. Alors, vous nous promettez effectivement 260 000 emplois. Alors, j'avoue que moi, maintenant, je juge sur preuve, parce que je me souviens d'un de vos prédécesseurs qui avait ce fameux pins avec marqué 1 million, qui promettait 1 million d'emplois. On ne les a pas totalement vus venir, quand même, les 260 000. Vous pensez vraiment qui serait là ?
À mon ami Pierre Gattaz s'est lourdement trompé, parce qu'en réalité, ce sont 2 millions d'emplois qui ont été générés par la politique de l'offre que tout le monde stigmatise maintenant, qu'on est en train de détricoter à bas bruit, mais qui a donné en termes de croissance, d'attractivité, d'emploi et de pouvoir d'achat d'excellents résultats. Donc Pierre Gattaz avait raison.
Pour vous, il avait raison. Ouais. Bon, mais vous, les 260 000, ils s'ajouteraient à tout ça sans qu'il y ait des pertes d'emplois par ailleurs ?
Mais il y aura de toute façon des pertes et des créations d'emplois. L'économie est en train de muter à toute vitesse, dont autour de ces phénomènes climatiques, l'intelligence artificielle, etc., etc. En net, ça générerait 260 000 emplois.
260 000 emplois en net. Et justement, le net et le brut, cette baisse massive des cotisations, évidemment, il va quand même falloir trouver de l'argent ailleurs. Pour vous, il y a notamment deux pistes. La CSG, les retraités les plus riches, et de l'autre côté, la TVA, qui là serait pour tout le monde 2 points de plus.
Nous, on demande le transfert de 60 milliards de cotisations sociales, maladie et famille, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises et les salariés qui financent un système dit de solidarité. À la fin, le gain pour les entreprises serait de 16 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État économiserait 30 milliards sur les fameuses aides aux entreprises. Ça veut dire que les salariés gagneraient 10 milliards, parce qu'on prendrait en charge une partie de leur cotisation en retraite, je ne rentre pas dans le détail, et effectivement, il y aurait un certain nombre de dispositifs qui sont favorables aux retraités aisés, j'insiste, aux retraités aisés, et par ailleurs, un transfert...
À partir de quand vous considérez qu'un retraité est aisé ?
À partir de 2000 euros de pension mensuelle.
Donc ce ne serait que ceux qui gagnent plus de 2000 euros de pension mensuelle qui contribueraient davantage.
Et un transfert effectivement vers le taux normal de TVA. J'insiste sur deux points. Le premier, ici et là, on me dit TVA sociale, c'est scandaleux, moi vivant.
J'ai envie de vous dire que pour le coup, c'est déjà venu et ça a rarement trouvé écoute chez les politiques,
mais
la
existe.
Fameuse TVA sociale.
Elle est en place déjà. Il y a déjà 50 milliards de protection sociale qui sont financés par la TVA et 130 par la CSG. Donc, en faire une affaire de principe, c'est de la mauvaise foi. Ça existe déjà. Ensuite, nous, on pense qu'il ne faut pas toucher au taux de TVA réduit. C'est l'essentiel des achats alimentaires. Enfin, il n'y a pas de TVA sur les loyers. Les deux postes de dépenses principaux des ménages modestes, c'est les loyers, l'alimentation.
Et ça,
donc zéro impact.
L'alimentation, en tout cas le panier effectivement des denrées nécessaires, lui, ce serait une TVA réduite qui resterait réduite.
Le même taux.
Il n'y aurait pas d'augmentation sur le reste, en revanche 2%. Vous pensez vraiment
2% qui nous mettrait à peine dans la moyenne européenne.
Mais vous pensez vraiment, Patrick Martin, qu'un politique, là, à un an des élections, va s'emparer de votre carte sur table, comme vous dites, de vos propositions ?
C'est évidemment un dilemme. Qu'est-ce qui permet de gagner? Il vaut mieux être soft, voire un peu démagogique. Et qu'est-ce qu'un homme d'État? Bon, je pense qu'on est dans une situation telle, on le voit à travers la faible croissance, on le voit à travers des destructions d'emplois, on le voit à travers le déclassement de la France dans le monde et par rapport même à l'Europe. Donc à un moment donné, si on ne prend pas acte autour de ces diagnostics carte sur table qu'il faut se ressaisir et que les solutions existent, eh ben on va continuer à décliner et ça va encore accentuer les tensions qui existent dans le pays et ça ne répondra pas à la demande des Français, le pouvoir d'achat. Il faut créer des emplois et pouvoir augmenter les salaires.
Vous dites, Patrick Martin, il faut que les Français puissent avoir la patate. Est-ce que les patrons que vous voyez aujourd'hui, ils ont la patate? Ou est-ce qu'ils sont... on parle beaucoup du moral des ménages. Qu'en est-il du moral des entrepreneurs?
Le moral des entrepreneurs n'est pas bon, alors ça va sans doute s'améliorer si ce qu'on nous annonce au Moyen-Orient se met en œuvre. La réouverture du détroit d'Ormuz, ça a pesé quand même. Mais surtout, on se désole de voir la glaciation du paysage politique. Rien ne va se passer avant l'élection présidentielle, on n'est même pas sûr que cette élection présidentielle et les législatives qui suivront apporteront des solutions. Et nous, on a besoin de lisibilité, de prévisibilité. Et tout ça advient à un moment où la concurrence internationale...
Il ne se passe rien. Vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien.
Il se passe rien.
On gère les affaires courantes.
Il se passe rien, mais c'est presque pire. C'est-à-dire que pour faire face à une situation budgétaire qui est dramatique, on détricote cette fameuse politique de l'offre qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on alourdit encore le coût du travail. Au même moment où on nous demande d'augmenter les salaires, on ampute nos marges de manœuvre. Et tout ça est fait à bas bruit. Donc, moi, je n'accable évidemment pas le gouvernement. Ça serait irrespectueux. Mais il n'a pas de marge de manœuvre. Le vrai problème, c'est le Parlement.
Le problème, c'est le Parlement, les marges de manœuvre. Patrick Martin, vous craignez une reconduite de la surtaxe de l'impôt sur les sociétés en 2027. Ça, pour vous, c'est le coup de grâce?
Alors, le coup de grâce, c'est beaucoup dire, mais d'abord, c'est un engagement pris par les pouvoirs publics. C'est quand même bien quand l'État honore sa parole. C'est vrai en matière budgétaire, mais c'est vrai d'une manière générale.
Enfin, oui, c'était des taxes exceptionnelles qui deviennent de moins en moins exceptionnelles.
Il était dit qu'elle devait disparaître au bout d'un an. Elle a déjà été prolongée une première fois. Je crains qu'elle le soit une deuxième fois. Il y a d'autres annonces qui avaient été faites, qui allaient dans le sens de la compétitivité, de la dynamique économique, de l'emploi, etc., qui n'ont pas été suivies des faits. Ça pose un problème très général. C'est pas spécifique au budget. Le discrédit de la parole publique est très grave. On le voit sur d'autres sujets, vous me comprenez. Et donc, moi, je suis viscéralement, le MEDEF est viscéralement républicain, démocrate, etc. Il est important que l'État fixe une ligne et se tienne à cette ligne. Le fait qu'il y ait ces coups de godille, ces errements, ces contradictions, tout ça est profondément déstabilisant. Alors, d'un point de vue psychologique, mais c'est pas neutre la psychologie d'un point de vue économique, mais ça se traduit dans les actes ou dans les non-actes. C'est-à-dire, on n'investit pas, on n'embauche pas, parce qu'on se dit à quelle sauce va-t-on être mangé.
Est-ce que ça veut dire aussi, Patrick Martin, qu'il y a certains patrons qui font planer une sorte de menace en disant, voilà, si on reconduit cette sorte de surtaxe sur les profits, alors il faudra en tirer les conséquences. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce mot. Lorsque vous entendez Patrick Pouyanet qui régulièrement aussi brandit cette menace, le patron de Total, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière? Quelle est la vraie menace? Est-ce qu'il y a un risque qu'un certain nombre de patrons déplacent le centre de gravité de la France vers un autre pays d'Europe, voire même vers les États-Unis?
Mais je crois qu'il ne faut pas inverser les rôles. Ce sont les errements des politiques publiques qui menacent les entreprises et leurs dirigeants. C'est pas les entreprises et leurs dirigeants qui menacent les pouvoirs publics. Nous, on est pragmatique et factuel. À un moment donné, si les conditions de survie ou de profitabilité d'une entreprise sont mises en cause, le moins que puisse faire un dirigeant, qu'il soit patrimonial ou pas, c'est de sauver l'entreprise. Donc, c'est terrible. Mais c'est vrai, à un moment donné, pour assurer la survie de l'entreprise, il faut faire des arbitrages.
Vous comprendriez qu'à un moment, si c'est trop, certains patrons un peu emblématiques disent, écoutez, finalement, on va sur la bourse de New York, on part, comme ça avait pu être évoqué par Total.
Nous sommes des femmes et des hommes d'honneur, pas au point de mourir au champ d'honneur. C'est-à-dire la vocation d'un chef d'entreprise, c'est de faire prospérer et durer son entreprise. Si à un moment donné, par supposé patriotisme, il doit sacrifier son entreprise en brandissant un étendard, ça n'a aucun sens, dont pour les salariés de la dite entreprise.
Ça veut dire que le patriotisme, c'est jusqu'à un certain point, à vos yeux.
Mais non, mais attendez... On ne salue pas assez le mérite des entrepreneurs français, qui sont les plus, je parle des entreprises plus que des entrepreneurs à proprement parler, ce sont les plus taxés au monde. Si nous étions cyniques et antipatriotes, c'est pas votre propos, tout le monde serait parti. On est là. on croit en la France, on fait des propositions pour la redresser, et moi je suis le premier, pour ma propre entreprise, à continuer à investir en France. J'aurais des actionnaires étrangers, ils me diraient, mais t'es un gros timbré.
C'est d'ailleurs toute la question, on va y venir à cette question des actionnaires étrangers, des fonds de pension notamment, qui sont ciblés par un certain nombre de députés comme étouffant des entreprises françaises. Il y a un seuil de douleur avec l'impôt, c'est ce que vous dites?
Il y a un seuil de douleur avec l'impôt, mais pardon, je réagis à ce que vous disiez. Quand on regarde la part de l'épargne des Français qui est fléchée vers les entreprises, c'est 19%. Aux États-Unis, c'est 86%. En Suède, c'est pas bien loin la Suède, 83%.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire par là que, parce que pour des raisons idéologiques, on dit qu'il faut pas qu'il y ait de fonds de pension de retraite par capitalisation, on livre une bonne part de nos entreprises, en particulier cotées, à des actionnaires étrangers. Fonds de pension ou pas d'ailleurs. C'est pas illogique qu'un étranger, mettons un japonais, veuille protéger le Japon plus que la France. Donc sans le vouloir, mais quand même, on s'est livré à des intérêts étrangers. Qu'est-ce qu'on fait en face de ça? Eh ben, on réagit, on met en place des retraites par capitalisation sans se substituer aux retraites par répartition.
Ce que vous voulez dire, c'est que le problème, c'est pas les fonds de pension, le problème, c'est qu'il n'y en ait pas suffisamment de Français.
Mais regardez,
le fonds de pension, par principe, est-ce qu'il n'est pas court-termiste? Est-ce qu'il ne vous met pas, vous, les entreprises, dans des situations où vous disiez, à l'instant, si j'avais des actionnaires étrangers, ils me diraient, t'es un grand malade?
Mais moi, j'ai eu dans mon entreprise.
Donc, ils vous diraient, partez.
Qui est resté pendant 12 ans. Donc il y a différentes stratégies dans les fonds d'investissement. Mais mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est de dire que, comme on ne s'est pas donné les moyens législatifs et fiscaux de créer un actionnariat français, on est dépendant pour les entreprises cotées. Le CAC 40, en moyenne, est majoritairement détenu par des actionnaires étrangers. Mais il en va de même pour la dette. La dette italienne, la dette publique italienne, est supérieure à la dette publique française. Oui, à part qu'elle est majoritairement détenue par des Italiens. En France, aux deux tiers, notre dette est détenue par des étrangers.
Donc on est dépendant davantage, on est plus fragile. Alors,
on est donc dépendant sur le plan technologique, on l'a vu avec l'affaire Anthropique. On est dépendant sur le plan industriel, singulièrement à l'égard de la Chine. On est dépendant financièrement, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, sur la détention du capital de nos entreprises cotées et la détention de la dette française. Alors, à partir de là, on parle pour ne rien dire. Soit on prend des mesures courageuses, ça sera le thème de notre rentrée, de notre ref de fin août, le courage.
Votre soit université d'été...
Soit on prend des décisions courageuses. Et des décisions courageuses, c'est pas de la sueur et des larmes. D'autres pays l'ont fait avant nous. Moi, j'ai pas vu, j'évoquais la Suède.
Mais vous disiez, les politiques français, il y a cette question du discrédit de la parole, disiez-vous, et puis vous craignez que rien ne se passe jusqu'à l'élection et que même l'élection elle-même ne change pas grand-chose. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que certains politiques prennent la mesure? Vous dites, la France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Quand vous entendez, par exemple, Édouard Philippe à la une de la Tribune dimanche ce week-end, qui dit, rien ne justifie le pessimisme français. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Mais moi, je n'exprime pas un pessimisme, j'exprime une frustration et de temps à autre une colère. Parce qu'il y a un gâchis terrible.
Donc on peut être optimiste.
Mais on peut être optimiste, mais il faut appeler un chat un chat. Et moi, je crois au bon sens de nos concitoyens. Prenez le cas des retraites. Évidemment, il y a toujours deux tiers des Français qui sont opposés à la réforme des retraites. Pas de chance, il y a deux tiers des Français, les jeunes particulièrement, qui ne croient plus à l'avenir de nos régimes de retraite. Donc à un moment donné... C'est une prise de risque, j'en suis conscient, mais nous, entrepreneurs, on prend des risques à longueur de journée. Il faut que les politiques prennent leurs risques en disant la vérité et en proposant des solutions. Et en faisant, je dirais, vibrer les Français.
Qu'ils aient la patate, je retiens la formule. Patrick Martin, une question sur les tests salivaires. Vous l'avez vu, le Premier ministre dit avoir lui-même accepté de faire un test salivaire et qu'il y ait des tests salivaires de manière inopinée et obligatoire dans les cabinets ministériels, mais aussi dans la haute fonction publique. Et pourquoi pas, dit-il, dans les entreprises. Le ministre du Travail que je recevais il y a quelques jours sur RMC disait, je suis prêt même à ouvrir cette question de la drogue en entreprise avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous vous dites, dans n'importe quelle entreprise, au-delà de la question juste de la sécurité ou des entreprises où il y a vraiment une question de sécurité immédiate, est-ce qu'il faudrait, en effet, qu'il y ait des tests salivaires, comme ça, dans les entreprises, pour s'assurer que les employés ne se droguent pas?
Alors, c'est un fléau, dans l'entreprise, comme partout ailleurs.
C'est un fléau, vous le constatez, vous le voyez, ça vous remonte.
Oui. C'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Un magasinier sur une plateforme logistique est aussi exposé, et parfois de conséquences dangereux pour ses collègues, qu'un ouvrier posté sur une chaîne de production. Moi, ça ne me choquerait pas dans des conditions, évidemment, réglementées.
C'est-à-dire qu'il faut que ce soit effectivement inscrit à l'avance dans le règlement des entreprises pour que ça puisse arriver à tout moment. Et avec quelles conséquences? Est-ce que vous vous dites, si on constate qu'un de nos employés est effectivement en consommation de drogue, est-ce qu'il faut qu'il puisse être licencié? Est-ce qu'il faut qu'il puisse être accompagné? Quelles seraient les conséquences?
D'abord qu'on lui propose un accompagnement. Le cas échéant, si la situation est critique, qu'on le retire de son poste à titre de précaution. Mais on peut pas laisser les choses en l'état. C'est horriblement dangereux. Écoutez, je crois pas me tromper en disant que de la même manière que pour les accidents de la route, les accidents du travail sont dorénavant en bonne part liés à la consommation de stupéfiants.
Les accidents du travail sont liés à la prise de stupéfiants.
Comme les accidents de la route.
Pour une part plus importante qu'avant.
Mais oui.
L'alcool a été quand même davantage marginalisé, l'alcool au travail. Oui. Aujourd'hui, vous avez une vraie question autour de la drogue.
Oui.
Merci beaucoup Patrick Martin d'avoir répondu à mes questions ce matin. Président du MEDEF qui se veut quand même optimiste, même si la situation en toute lucidité est difficile. Oui, vous me laissez votre carte sur table, ce que la France ne peut plus ignorer. Allez, je vais avoir de la lecture. Merci à vous, il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. 175 000 loyers impayés en 2025 en HLM, un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Des locataires quasiment toujours en grande difficulté financière. Nous verrons comment ils sont aidés. Et puis on va revenir sur la qualification des Bleus pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC. Le mondial de Romain ce matin. C'est avec vous Romain Hoog. Bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, toutes les dernières infos après la victoire des Bleus cette nuit et les matchs qui ont suivi. On y revient dans un instant. Mais avant ça, il y a le choix de la rédaction. Et c'est avec vous Martin Bourdin. Bonjour Martin.
Bonjour Apolline.
Le nombre d'impayés est en pleine explosion. Les bailleurs sociaux ont dénombré 175 000 dossiers d'impayés en 2025. Et c'est pas parce que les locataires sont malhonnêtes.
Non, les mauvais payeurs existent évidemment, mais ils sont très minoritaires. Moins d'un cas d'impayés sur 10 selon une étude publiée en janvier. En fait, le plus souvent, les locataires ne paient plus, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus payer. Impossible de boucler les fins de mois. C'est ce qui est arrivé il y a quelques mois à Maëlys, locataire d'un logement social, un T3, à La Seyne-sur-Mer, dans le Var. 670 euros de loyer chaque mois. Mais il y a quelques mois, elle a des soucis de santé, est obligée de diminuer son salaire. Et dans la foulée, son mari, cuisinier, tombe malade. Lui doit arrêter de travailler. Le début de la galère pour la petite famille, raconte-t-elle au micro RMC d'Anna Jojard.
Donc on s'est retrouvé qu'avec un seul salaire, pour toutes les factures, j'étais sous l'eau. Le loyer, je pouvais plus le payer. Je priorisais mes enfants, ma petite famille par rapport au loyer. Puis voilà, je me suis retrouvée avec presque 6 000 de dettes de loyer. Je passais mes nuits à pleurer.
Vous avez eu peur, Maëlys, d'une expulsion à un moment?
Oh oui, j'ai paniqué, j'ai stressé.
Et c'est le coup près que craignent tous ces locataires qui ne peuvent plus payer, Martin. La question des expulsions, elles sont elles aussi de plus en plus nombreuses.
Un peu plus de 30 000 locataires expulsés de leurs logements sociaux. Rien qu'en 2025, c'est une augmentation de 27% en un an seulement. Parce que demander de l'aide n'est pas simple. C'est d'ailleurs ce que nous a confié Maëlys. Elle a fini par le faire en fin d'année dernière. Et depuis, elle est accompagnée par son bailleur Erilia pour trouver des solutions. Nous l'avons accompagnée, nous, à l'un de ses rendez-vous.
Madame, et aujourd'hui, vous avez 4 travailleurs sociaux en fait autour de là.
C'est ça. Je suis bien encadrée, hein. Il n'y a rien à dire.
On a essayé de vous rattraper, on n'y arrivait pas. Et un jour, vous avez eu le déclic.
Bonjour, Éline Charnoz, conseillère en économie sociale et familiale chez Erilia. J'ai rencontré Maëlys au mois de décembre, novembre 2025. On a fait un tableau des charges, des dépenses et des ressources pour calculer un reste à vivre. Ce reste à vivre là, il était très bas au moment où j'ai rencontré Maëlys. À ce jour, ça va un peu mieux. Mais oui, il y a tout un diagnostic social et financier qui est fait en amont du rendez-vous pour en fait nous permettre de choisir les outils adaptés dans le but d'améliorer les situations de nos locataires.
Et ça fonctionne, hein. Maëlys, vous l'avez entendu, avait 6 000 euros d'impayés il y a quelques mois. Elle en a entre guillemets plus que 2 000 euros aujourd'hui.
Reste que le constat est alarmant, Martin. Tous ces locataires comme Maëlys, comment ils se retrouvent à devoir choisir entre manger et se loger.
Ouais, et dans ce cas-là, c'est souvent le loyer qu'on sacrifie. Le montant moyen des dossiers d'impayés, c'est autour de 3 000 euros d'après la CLCV, mais l'Association de défense des consommateurs constate qu'il y a de plus en plus d'impayés de plus de 6 000 euros et ça touche tout le monde, analyse Guillaume Eichelmann. Il est chargé de mission logement social à la CLCV.
Là, désormais, tous les ménages sont concernés, de la classe populaire à la classe moyenne, en passant par des employés comme des retraités. Sachant qu'on va aller vers une aggravation parce que pour l'instant, on avait des dispositifs d'aide jusqu'en 2024, mais maintenant que le bouclier tarifaire s'est éteint, on se retrouve avec les régularisations de charges des années suivantes. Nous risquons justement à nouveau une bombe sociale et une désagrégation de notre équilibre social au niveau du logement.
Il en appelle donc au gouvernement, notamment pour augmenter la partie des APL dédiée au paiement des charges d'énergie, ce forfait charge qui n'a pas été réévalué depuis 18 ans, déplore la CLCV.
Merci beaucoup Martin. Martin Bourdin, reporter RMC. Il est 8h54 et on part aux États-Unis.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Romain Hoog a passé la nuit à suivre effectivement cette Coupe du Monde. L'équipe de France qualifiée pour les 16e de finale après un match à peine croyable.
Courage au désespoir. Le match le plus long de l'histoire de la Coupe du Monde, sans aucun doute. Débuté à 23h, terminé à quasiment 3h du matin. La faute aux intempéries et l'orage qui s'est déclenché à la mi-temps au-dessus de Philadelphie. Et ça n'a pas plu aux supporters. Écoutez-les au micro de Valentin Jamin.
Il y a de la pluie dans tous les pays. En France, on en a tous les jours quasiment, au moins 6 mois de l'année. Les matchs s'arrêtent pas, le travail s'arrête pas. Je sais pas pourquoi ici, c'est pas énorme, on va pas se mentir. Pour des conditions comme ça, ils veulent arrêter. Et ça fait maintenant plus de quasiment une heure que le match s'est arrêté. Je trouve que c'est un peu ridicule, mais bon, si c'est leur culture.
2h12 d'interruption au final, c'est le protocole américain qui a été appliqué à la lettre pour la première fois depuis le début de la compétition. Dès qu'il y a un risque d'orage, un orage dans un périmètre de 13 km autour d'un lieu regroupant du public, manifestation interrompue, tout le monde aux abris pour minimum 30 minutes renouvelables tant que la menace n'est pas évacuée. Bon, l'essentiel est là, les Bleus se sont imposés, rappelons-le, et sont qualifiés en 16e.
Et puis Romain, on parle mascotte ce matin, un grand classique des compétitions sportives.
Vous connaissez Merlin ?
C'est la danse des canards.
Merlin, c'est un canard, le canard le plus célèbre du Mexique depuis qu'il a été vu arborant le maillot de la sélection de l'un des pays organisateurs et déambulant au milieu des supporters. Eh bien, sachez que Merlin est devenu ambassadeur officiel de la FIFA et le nom, l'image de Merlin seront des marques déposées auprès de l'Institut de la propriété intellectuelle. Merlin a même été reçu par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. C'est le troisième canard de la famille Gomez, nommé ainsi en hommage à l'enchanteur de la légende Arthur, après la mort du précédent.
Et puis on parle maintenant du sujet qui agite tout le Portugal et même peut-être plus.
Oui, Cristiano Ronaldo. Alors qu'hier soir, le grand rival Lionel Messi est entré dans l'histoire en devenant le meilleur buteur de la compétition. Le Portugais, lui, est remis en cause de partout, critiqué pour son égoïsme et son obsession pour ses stats. CR7, 41 ans, serait un handicap, voire un boulet pour l'équipe nationale. Le quotidien sportif portugais Abola a demandé à ses lecteurs d'établir leur 11 de départ pour affronter l'Ouzbékistan. Et bien ce soir, pas de Cristiano Ronaldo, ni dans l'équipe choisie par les journalistes de la rédaction. C'est l'attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, qui est lui plébiscité à chaque fois. Rappelons quand même que c'est le sélectionneur Roberto Martinez qui a le dernier mot.
Et puis la sélection iranienne a laissé un message dans le vestiaire de Los Angeles hier.
Oui, pour remercier la Cité des Anges de son hospitalité. Nous sommes venus à Los Angeles avec fierté, nous avons joué avec honneur et nous repartons avec dignité. Voilà ce qu'on a pu lire après son match nul contre la Belgique, 0-0. Un résultat qui maintient ses espoirs de qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Los Angeles a accueilli les deux premiers matchs des Iraniens dans ce mondial. La sélection iranienne est contrainte de faire des allers-retours entre les États-Unis et le Mexique, où est son camp de base. Des restrictions liées à son séjour dans le pays, mais qui pourraient s'assouplir d'ici le troisième match, puisque les Iraniens devraient normalement pouvoir arriver deux jours avant l'affrontement contre l'Égypte vendredi matin du côté de Seattle.
Merci beaucoup Romain Hoog et puis toute la rédaction d'RMC qui suivent jour après jour et à tout instant de nuit comme de jour ce mondial, évidemment. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Vous pouvez aussi retrouver la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. Dans un instant, c'est les GG. Quel est le programme, Alain?
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Bien sûr, vous allez prendre la parole dans un instant avec les GG, les grandes gueules au 32-16. Alors on est encore dans la canicule, dans une journée qui va être encore plus chaude, et on a les appels à rester à la maison pour le télétravail, les écoles qui restent fermées, la désorganisation dans les transports. Mais finalement, allez, on va se demander franchement entre nous, est-ce que c'est de la prévention, du principe de précaution, ou est-ce que c'est de l'impréparation? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Ce sera l'un de nos sujets de discussion avec les conclusions du rapport Liana, les premières sanctions. Est-ce que ça nous redonne confiance dans la justice? 32-16 pour en discuter avec les...